Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Les abeilles, ces formidables pollinisatrices, jouent un rôle crucial dans le processus de reproduction des plantes et le maintien de la biodiversité. Depuis quelques années, un phénomène d'affaiblissement et de mortalité des colonies d'abeilles est constaté dans le monde. Le changement climatique, l'utilisation des pesticides, la monoculture agricole font partie des facteurs à risque pour leur survie. Leur disparition aurait de lourdes conséquences pour notre planète, leur préservation est donc cruciale. Comment peut-on agir à notre niveau et mieux les connaître pour les préserver ? C'est une des questions auxquelles nous répondra Pierre Javaudin, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet et homme qui aime les abeilles. Mais avant, on le retrouve en compagnie de Laurent Montauvert de Radio Laser lors de la fête de la biodiversité organisée par l'association Culture Bio en septembre 2023 à Guichen.
La biodiversité, chacun et chacune peut la développer chez soi au quotidien et ainsi voir la faune et la flore se développer tout près de chez nous. Dans cette optique, pourquoi pas essayer de développer une ruche naturelle. Découvrez les conseils pratico-pratiques pour fabriquer et installer une ruche de loisirs horizontale permettant une pratique d'une apiculture respectueuse des abeilles en compagnie de Pierre Javaudin, apiculteur amateur et auteur de nombreux ouvrages sur la question tels que « Abeilles en danger » ou encore « Une ruche dans mon jardin » aux éditions Larousse.
C'est la découverte d'un essaim dans mon jardin qui m'a amené à aller voir un petit peu plus loin. Voilà, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, un essaim qui s'accroche comme ça, c'est assez magique. Et j'ai essayé de connaître un petit peu mieux et surtout de vouloir récupérer cet essaim pour l'installer dans une ruche. Et les ruches conventionnelles, les ruches qu'on proposait un peu partout, ne m'intéressaient pas trop. C'est plutôt de la ruche d'élevage, de la ruche de production, de la ruche pour faire du miel. Et moi, je souhaitais plutôt avoir des abeilles dans le jardin plutôt que des abeilles pour faire du miel. Et j'ai cherché un petit peu ce qui se faisait sur les ruches un petit peu de biodiversité, des ruches un petit peu différentes. Et je suis tombé sur une ruche qui s'appelle la Top Bar Hive, qui est une ruche qu'on dit aussi une ruche kenyane, qui est fabriquée avec quelques planches. On peut même en fabriquer une avec des palettes. Et qui a ceci de particulier, c'est-à-dire qu'elle est horizontale au lieu d'être verticale. Donc elle est assez accessible, elle est facile à manipuler. On n'a pas besoin de porter de charges lourdes. Et elle peut être fabriquée avec trois planches. En France, métropolitaine, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles. Il n'y en a qu'une qui fait du miel. Elles sont un peu oubliées dans cette histoire d'abeilles et de biodiversité dans les médias. À peu près 70% de ces abeilles vivent dans le sol. On a toujours l'impression que d'installer des petits hôtels insectes avec des tiges creuses, ça va sauver les abeilles. Parce que celles qui rentrent dans ces petits tubes là, sont plutôt des osmies, donc qui ne sont pas, elles, spécialement en danger. D'autres abeilles, par contre, disparaissent très régulièrement, mais personne n'y s'y intéresse vraiment parce qu'elles ne produisent pas. Il n'y a pas de miel, donc elles sont un petit peu les oubliées de cette histoire. Première chose, avant même de penser d'installer une ruche, pensez tout simplement à laisser des endroits un peu sauvages, non tondus, avec certaines plantes annuelles, où tous les ans ça repousse, etc. Certaines abeilles viendront s'installer là. Il y a aussi le conseil d'installer un endroit pour des bourdons. Les bourdons sont très pollinisateurs, ils démarrent très tôt. À 5-6 degrés, un bourdon vole et va déjà butiner. Hein. Et en plus, il est quand même on est moins susceptible de se faire piquer. Il sort de sa colonie, mais contrairement à l'abeille de ruche, qui elle va garder sa colonie tout l'hiver au cœur de la ruche, le bourdon va mourir. Donc il n'y a pas de... Les reines vont aller s'installer dans un endroit chaud, comme les frelons asiatiques ou les frelons classiques, et va reconstituer une colonie complète. Alors que l'abeille de ruche, l'abeille mellifère, on est bien d'accord, elle va faire perdurer sa colonie. Et pour avoir des bourdons, bah écoutez, c'est relativement simple. C'est un pot de fleurs, un pot en terre cuite, à l'envers, dans un talus, avec de la terre un petit peu autour, et le trou qui est devenu sur la partie haute du pot. Vous mettez par exemple deux ou trois cailloux, une ardoise dessus, un gros caillou, et au cœur, par exemple, avant de refermer tout ça, mettre une litière de mammifères, de rongeurs, pardon, du hamster, ce genre de choses, parce que naturellement, les bourdons s'installent dans des nids déjà existants, dans des terriers existants, et cette odeur leur rappelle quelque chose. Et là, vous pouvez avoir des bourdons avec un pot, sans même, vous voyez, là, on ne parle pas de ruche, c'est juste simplement de la pollinisation. Pour avoir des abeilles sauvages, dites solitaires, eh bien, de toute façon, quelques trous par là, des vieux morceaux de bois un peu pourris, c'est très bien, parce que là, on aura de l'abeille charpentière, par exemple. Et puis, pour avoir une ruche, eh bien, laisser un endroit assez tranquille, puisque les abeilles n'ont pas spécialement envie d'être dérangées. Si elles s'installent en forêt, en hauteur, c'est pas pour rien. Et puis là, installer une ruche avec un point d'eau, comme on disait tout à l'heure. Si vous ne souhaitez pas avoir une ruche, d'avoir l'utilisation d'une ruche d'apiculture, bah tout simplement, il faut laisser des endroits spécifiques où on ne touche à rien, tout simplement, parce que certaines abeilles vivent sur certaines plantes. Il y a par exemple une ruche qui est uniquement sur le lierre. Et à partir du moment où on coupe le lierre, bah cette abeille ne sera plus présente dans le jardin.
D'accord. Mais comment on les attire, ces abeilles, justement? Parce que vous n'allez pas acheter des abeilles pour en mettre, c'est non. Elles qui viennent.
Oui, tout à fait. Eh bien, tout simplement, il suffit de préparer un sol couvert, un peu de sable et de terre, histoire de le rendre un peu plus léger. Et là, naturellement, à partir du moment où il y a un pot d'eau dans le coin et où il y a certaines plantes qui ne bougent pas d'année sur année, des abeilles vont s'installer naturellement. Il suffit de faire des petits trous. Ça, c'est pour celles qui sont dans le sol. Maintenant, pour celles qu'on souhaite par exemple, abriter dans un hôtel insecte, bien sûr, ces petits tubes de bambou, etc., à 6-8 mm, vont être colonisés. Mais on oublie souvent que beaucoup d'abeilles aussi souhaitent s'installer dans des tiges à moelle. Des tiges qui ont de la moelle au milieu. Et là, par contre, ce sont des tiges verticales. Donc, à côté d'un hôtel à insectes horizontal, il suffit de lier un petit fagot de plantes à tiges à moelle, genre, je sais pas moi, il y a les roses trémières, peu importe, de 10 à 20 cm, d'enfourner tout ça, par exemple, dans une boîte de conserve, et puis de l'installer près d'un piquet, sur un piquet tout près. Et là, vous aurez déjà des abeilles différentes que vous ne voyez pas habituellement parce qu'elles privilégient ce genre d'habitat. Ça demande du temps. Ça demande, à une certaine période de l'année, surtout le type de ruche que moi j'utilise, attention, les ruches kenyanes. C'est barrette par barrette, donc ça demande, jusqu'au début juillet, ça demande quand même un certain nombre d'interventions, de petites interventions, toutes petites, mais c'est pas une ruche qu'on pose dans un bois et qu'on revient 6 mois après. Contrairement à de la ruche plutôt conventionnelle, où on installe des hausses, et là, bah, c'est des greniers où elles s'installent, elles en ont pour plusieurs semaines. Alors, si vous voulez vous lancer avec 5 palettes, le prix sera plutôt l'huile de coude qui coûtera plus cher. Pour moi, personnellement, dans le type de ruche, parce que je suis un peu, vous avez compris, un petit peu non conventionnel, moi, j'ai besoin d'un couteau. J'utilise très peu l'enfumoir. Sur l'enfumoir, c'est quand on fait une très grosse intervention. Mais comme ce sont plein de petites interventions, finalement, moi, un pchit-pchit avec de l'eau, et ça le fait très bien. Elle est à peu près à 1 mètre du sol. Les mains sont juste à la bonne hauteur. Pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, c'est parfait. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a le côté administratif où chaque maire ou chaque département peut déterminer une distance avec la voie publique ou le voisinage. Mais il y a aussi le code rural qui dit tout simplement que quand vous avez une ruche chez vous, il faut qu'elle soit à 2 mètres de la palissade du voisin qui fait une hauteur de 2 mètres de haut. Et là, vous pouvez avoir une ruche chez vous. De façon à ce que les abeilles puissent décoller, et quand elle arrive à 2 mètres de haut, elle va de toute façon aller vers 3-4 mètres pour pouvoir aller chercher sa nourriture. Donc elle peut passer au-dessus du voisin sans même qu'il s'en rende compte. Souvent, les soucis sont plutôt d'ordre de l'eau, où beaucoup d'apiculteurs retrouvent leurs abeilles dans la piscine du voisin. Et là, ça commence à poser quelques soucis, puisque les enfants qui vont se baigner ont des abeilles sur l'eau. Et elles ont besoin d'eau, beaucoup d'eau. Hein. Une ruche va consommer une centaine de litres d'eau par an pour ce besoin. Donc, il faut surtout bien penser à installer de l'eau près des ruches, de façon à ce que dès qu'elles sortent, elles repèrent ce point d'eau et vont continuellement aller chercher de l'eau, plutôt dans votre jardin que dans le jardin du voisin. La combinaison, naturellement, il faut en porter une. C'est une protection. Mammifère, rappelons-nous, mammifère qui vient mettre les mains dans une colonie d'abeilles, l'abeille va chercher à se défendre, défendre sa nourriture et sa progéniture. Dans son cerveau bien constitué, elle a repéré quelque chose. C'est-à-dire que quand un ours avec des poils de 10 cm, avec une peau et de 1 cm et je ne sais pas combien de centimètres de graisse, elle peut toujours piquer, il ne se passera rien. Par contre, si elle attaque l'ours au niveau des yeux, des narines, des oreilles et de la bouche, elle sait très bien qu'à une dizaine d'abeilles, elle peut faire détaler un mammifère de 120 kg. Et même si vous pesez 80 kg, il vaut mieux se protéger le visage, parce que c'est là qu'elles y vont piquer. Et aussi les mains, puisqu'il y a une intervention, il y a un mouvement autour des mains. Germont, c'est les mains et le visage qui est plutôt visé. On est toujours piqué, toujours. C'est avec toutes les précautions nécessaires, avec tout le calme et la zénitude nécessaire, une abeille vous piquera. Il ne faut pas se dire un jour j'aurai des ruches, elles ne me piqueront pas, il y aura toujours des piqûres. Ça fait mal, ça dépend où, et même certaines parties du corps peuvent avoir des réactions différentes. Moi, si je me fais piquer sur le dos de la main, en un quart d'heure, 20 minutes, ma main a doublé de volume. Par contre, je me fais piquer sur le poignet ici, j'aurai mal, ça ne va pas gonfler plus que ça et ça ne bougera pas. Vous voyez, sur à la limite 10 cm sur un corps, il peut y avoir des réactions différentes. Et les réactions d'aujourd'hui ne seront pas mes réactions de demain ou dans un an. Il y a des apiculteurs qui sont obligés d'arrêter l'apiculture parce qu'ils deviennent allergiques. Et des personnes qui étaient allergiques, au bout de quelques années, se rendent compte qu'ils ne le sont plus. Moi, il y a une anecdote qui est piquante. j'avais quitté la ruche, j'avais fait une dizaine, vingtaine de mètres. Le soir était tombé, j'étais juste comme ça pour aller voir un peu ce qui se passait. Et il y en a une qui m'a attaqué juste dans la nuque. Pourquoi, quand, comment, j'ai jamais rien compris. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention quand même. C'est pas dangereux, mais il faut quand même se préserver de tout ça. Bon réflexe, déjà, c'est de ne pas appuyer sur... Le dard reste planté dans la peau. C'est de ne pas pincer le dard pour le retirer. Parce que là, vous allez faire un effet de seringue, vous allez installer tout le venin dans la peau. Donc, c'est plutôt de le soulever avec l'ongle pour pouvoir l'enlever. Et juste après, tout le monde a un peu sa technique. Moi, personnellement, j'utilise de l'ammoniac alcali en petite pichenette, comme ça. Et je mets ça juste dessus, ça arrête tout de suite la douleur et ça évite de gonfler. Mouvement lent et délicatesse. Parce que sinon, il y a un signe d'agression. On est quand même un mammifère qu'elle a repéré depuis presque 100 millions d'années, un peu comme l'ours. Ce mammifère de 1m80, enfin pas tout à fait pour moi, mais et de 120 kg, ça je m'en rapproche peut-être plus, peu importe. Mais pour elle, ce mammifère est là pour lui piquer soit ses larves, parce que l'ours mange beaucoup de larves. Hein. On croit que l'ours, comme Winnie l'ourson, va manger que du miel. En fait, c'est la protéine des larves aussi qui l'intéresse. C'est pour ça que dans la nature, elle s'installe à 5-6 mètres de haut, et non pas au ras du sol comme on fait dans nos ruches, tout simplement pour s'éloigner, de façon à ce que l'ours cherche un petit peu où elle nid. Une petite cuillère à café, c'est plusieurs vies d'abeilles. Donc c'est pour ça qu'ils font consommer avec modération. Sachez par exemple que mettre du miel dans de l'eau chaude, dans du lait chaud, c'est une erreur monumentale, puisqu'au-delà de 40 degrés, toutes les vertus qu'il y a dans le miel, dont les antibiotiques naturels, sont tuées. Voilà, par exemple. Donc tous ceux qui utilisent ça devient un sucre qui a un goût de miel, mais il n'y a plus aucune vertu du miel quand on met du miel dans une matière chaude. Dans la nourriture, dans les gâteaux, dans le lait, dans le thé.
Voilà à l'instant ce reportage signé Laurent Montauvert de Radio Laser à Guichen sur l'installation d'une ruche de loisirs chez soi. Pour aller plus loin sur le sujet et prendre de la hauteur, on a décidé de continuer la discussion avec Pierre Javaudin, auteur du livre Une ruche dans mon jardin et véritable passionné par nos amis les abeilles. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Dans le reportage qu'on vient d'écouter, vous nous racontez comment fabriquer une ruche de loisirs chez soi. Et voilà, ça nous donne des éléments de compréhension au sujet des abeilles et de bons conseils. Eh bien, on a décidé donc de creuser un petit peu plus le sujet avec vous aujourd'hui. Et on veut tout savoir sur les abeilles. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'importance des abeilles et pourquoi elles sont-elles si importantes dans la préservation de la biodiversité.
Ben, écoutez, les abeilles sont vraiment indispensables. Il faut quand même savoir que 80% des plantes cultivées ont besoin des insectes pour leur pollinisation. À l'échelle mondiale, ça représente quelque chose comme 150 milliards d'euros. Ne serait-ce que déjà au niveau économique, c'est énorme. En plus, bien sûr, de la partie biologique et de toute la biodiversité que ça peut apporter. Mais rien que ça, ça doit pouvoir faire réfléchir. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dans nos assiettes, une bonne partie de ce qu'on a dans nos assiettes aujourd'hui, est possible grâce à la pollinisation, grâce aux pollinisateurs. Il n'y a pas que les abeilles, certes, hein, il y a les abeilles telles qu'on les connaît, les abeilles qu'on retrouve dans des ruches, qui sont des abeilles mellifères, des abeilles qu'on appelle domestiques, et puis toutes les autres abeilles, parce qu'il y en a quand même beaucoup en France, et on va peut-être pouvoir en parler aussi un petit peu, et sans oublier aussi les autres pollinisateurs, hein. Il y a des papillons, il y a tout ça. Donc tout ça représente quand même la possibilité d'une bonne récolte, et donc nourriture tout simplement à l'échelle mondiale.
Alors dans le reportage, Pierre, vous parlez des abeilles sauvages, elles sont un petit peu moins connues quand même que les abeilles domestiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux types d'abeilles et puis les autres aussi, les autres abeilles ?
Quand on parle d'abeilles, il faut savoir qu'en France, il y a 1000 espèces d'abeilles différentes. 1000. Une seule produit du miel. C'est celle qu'on retrouve dans les ruches, ce qu'on appelle l'abeille mellifère. Dite aussi l'abeille domestique, parce qu'elle a été domestiquée par l'homme. Une seule qui produit du miel. Toutes les autres sont des abeilles dites solitaires. C'est-à-dire que la grande différence, par exemple, c'est qu'une abeille mellifère, une abeille de ruche, visite à peu près 200 fleurs différentes. Alors que l'abeille solitaire, l'abeille, petite abeille solitaire, elle, parfois, ne butine qu'une seule fleur. C'est le cas, par exemple, de la collette du lierre, qui ne butine que le lierre. Ça ne veut pas dire que les abeilles mellifères ne butinent pas le lierre, mais vous voyez, il y a des abeilles qui n'ont qu'un seul, au niveau du régime alimentaire, c'est relativement court. Mmh. D'autre part, les abeilles de ruche, les abeilles mellifères, vont jusqu'à peu près butiner jusqu'à 3 km autour de la ruche. Alors que l'abeille solitaire ne butine qu'à une centaine de mètres de son nid. D'une simple bonne raison, c'est qu'elle est seule. C'est un peu un auto-entrepreneur et la colonie d'abeilles serait plutôt une multinationale. L'auto-entrepreneur, ben, il fait à la fois s'occupe de son nid, s'occupe de sa progéniture, s'occupe de sa nourriture et ne peut pas s'éloigner parce que sinon, bien sûr, il peut y avoir des prédateurs, etc., etc. Donc ça, c'est une grosse différence. L'autre différence aussi, c'est que la colonie d'abeilles vit toute l'année. Même si elles ne sortent pas en hiver, mais elles sont quand même bien vivantes au sein de la ruche ou de la colonie, est toujours présente, alors que les autres abeilles meurent l'hiver. Donc, il y a cette notion de 365 jours sur 365 où l'abeille mellifère est bien vivante et opérationnelle, sauf bien sûr la partie hiver où elle ne va pas butiner parce qu'il fait trop froid. À propos de chaleur, d'ailleurs, une colonie d'abeilles dans une ruche maintient toujours une température idéale. Ça descend un petit peu l'hiver, mais bon, elles gèrent parfaitement la température d'une ruche. C'est-à-dire que quand il fait trop chaud, elles ventilent à l'intérieur pour rafraîchir l'environnement et sur leur environnement. Et, à contrario, l'hiver, quand il fait trop froid, eh bien, elles produisent de la chaleur pour maintenir la température. Alors que les abeilles solitaires, elles, ne vivant pas en colonie, ne peuvent pas produire de la chaleur de façon commune, donc sont complètement liées à la température qui les entoure. C'est-à-dire que s'il fait très froid, l'abeille solitaire, de toute façon, à ce moment-là, elle est morte, il n'y a pas de souci, mais quand il fait très chaud, elle n'a pas possibilité de se rafraîchir. D'autre part, ça, il faut le savoir aussi, c'est que les abeilles de ruche construisent leur rayon avec de la cire qu'elles produisent elles-mêmes. Hein. Donc, il y a une construction. Alors que la plupart des abeilles solitaires ne vivent pas dans des ruches, ne vivent même pas dans des tiges, il y en a quelques-unes, mais il faut savoir que 70% des abeilles solitaires vivent dans le sol. Elles sont dans des petits terriers qu'elles creusent. Donc, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Et puis, bien sûr, l'abeille de ruche, elle est élevée par l'homme puisqu'elle produit du miel, et donc il y a un intérêt pour l'homme sur ce type d'abeille, sur cette abeille mellifère, alors que toutes les autres ne produisent rien, sont complètement délaissées et ne rentrent pas véritablement dans une forme d'intérêt pour ces abeilles et elles disparaissent à vue d'œil.
Justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les principaux facteurs responsables du déclin des abeilles et voilà, est-ce que les menaces sont les mêmes pour les mellifères que pour les solitaires ?
Il y a différents facteurs. La première chose, quand même, et c'est assez récent, depuis une cinquantaine d'années, c'est bien sûr tout ce qui est pesticides et insecticides. Ça, c'est terrible. Un insecticide, par définition, c'est fait pour tuer des insectes. Donc, à partir du moment où on met de l'insecticide sur des plantes, bien évidemment, les insectes qui vont butiner ces plantes vont en pâtir. Alors, il y a aussi des mélanges, ce qu'on appelle un peu le cocktail, des pris à l'unité, un produit n'est pas forcément dangereux. Un autre à côté, lui non plus, pas forcément dangereux. Mais si l'abeille consomme ces deux produits-là, là peut y avoir des cocktails qui sont en partie responsables de la disparition des colonies d'abeilles. Ce qu'on appelle d'ailleurs un syndrome d'effondrement, c'est-à-dire qu'on se rend compte, dans des ruches par exemple, que toutes les abeilles sont mortes, la ruche est vide, la nourriture était présente, où sont passées ces abeilles ? Elles sont perdues, tout simplement. C'est-à-dire que ces produits chimiques interagissent au niveau de leur cerveau et surtout de leur système d'orientation, et ils sont perdus, tout simplement. Donc, ils se perdent dans la nature. Donc ça, il y a cette partie-là. Il y a bien sûr aussi une forte réduction des ressources alimentaires, dans le sens où la monoculture peut présenter, par exemple, des hectares de colza, bon, c'est très bien, mais juste après, il n'y a plus rien. Or, une colonie d'abeilles a besoin, les abeilles ont besoin tout au long de l'année, en période, bien sûr, je ne parle pas d'hiver, mais de se nourrir, tout simplement. Si vous avez une monoculture qui donne énormément de nectar et de pollen pendant une période, mais il y a toute la partie ensuite, qui est une période, ce qu'on appelle une période de disette, où elles n'ont rien à manger. Donc, ces grandes cultures aussi ont un effet, c'est la raréfaction des sites de nidification. À l'origine, les abeilles vivent aussi, les abeilles mellifères, j'entends, vivent dans des arbres creux, par exemple. Le fait d'augmenter les surfaces, de supprimer une grande partie des haies, eh bien, à partir du moment où on a un problème sur les ressources alimentaires et une raréfaction des sites de nidification, eh bien voilà. Il faut savoir quand même qu'en France, on perd plus de 20 000 km de haies par an. Pour comparer, un automobiliste moyen fait 12 000 km par an. C'est presque le double qu'une personne fait à l'année en kilomètres dans sa voiture qui est supprimée au niveau des haies.
Et sur les abeilles sauvages, alors est-ce que c'est les mêmes menaces, Pierre ?
Une abeille sauvage, à partir du moment où elle ne va pas forcément sur des grandes cultures,
oui.
Puisqu'elle va plutôt être sur, comme on disait tout à l'heure, sur des parties un peu plus limitées, elle est moins impactée au niveau de ce souci-là. Par contre, elle butine quand même des fleurs comme les autres abeilles mellifères. Bien sûr, elles sont impactées par ça. Ce qui est impacté aussi, c'est toute la partie nidification, parce que là, une abeille solitaire qui habite un petit talus de terre, si ce talus est régulièrement fauché, régulièrement retourné, etc., etc., bien évidemment, elles en pâtissent.
Pierre, je voulais revenir aussi sur peut-être un petit peu les menaces. On n'a pas parlé du varroa, mais ça aussi, c'est une vraie menace pour les abeilles.
Oui, oui, oui. Alors là, au niveau parasites et prédateurs, on a le pompon. Hein. Le varroa, depuis les années 80, hein, je crois que c'est en 1982, on a eu les premiers varrois en France, c'était une partie frontière allemande là-bas. Le varroa, c'est ni plus ni moins, on va dire, une puce sur un chat, sauf que la puce en question, elle est presque aussi grosse que la tête du chat, dans le sens où ça pompe l'hémolymphe, ça transperce le corps de l'abeille et ça pompe son hémolymphe. L'hémolymphe, c'est comme le sang. Hein. Donc, ça les épuise énormément. Et le problème, en plus, c'est que ce varroa inocule certains virus. Donc, et là, pour s'en débarrasser, toutes les abeilles ont du varroa. C'est comme un peu comme un chat. Dès qu'il sort dehors, il va choper les puces du chat du voisin. Eh bien, toutes les abeilles, même si au départ, vous n'avez aucun varroa dans votre ruche, auront à un moment ou un autre du varroa parce que ça se transmet très facilement. Et une abeille qui va butiner une fleur, le varroa peut très bien se poser sur la fleur et l'abeille qui viendra après va sauter sur l'abeille qui vient de débarquer et ramener le varroa à la ruche. Donc ça, c'est un gros, gros, gros souci. Et l'autre souci, bien sûr, bien connu et bien médiatisé, c'est le frelon asiatique, qui est arrivé en 2004. Donc, vous voyez, tout ça, c'est récent. Varroa, 1980, frelon asiatique, les années 2000, les poussières. Il est arrivé dans l'Haute-Garonne, ça a démarré, maintenant, c'est fini. Quoi. On ne pourra plus éradiquer le frelon asiatique. Il va falloir faire avec, et les abeilles vont devoir faire avec. Alors, bien sûr, Il y a des espoirs au niveau des scientifiques qui sont en train de travailler là-dessus. Voilà. Après, il y a le piégeage. Certains disent que c'est bon, d'autres disent que c'est pas bon. Enfin, bref. Alors, on est bien embêté avec ça. Donc, varroa et frelons asiatiques, effectivement, parasites et prédateurs très, très présents.
Alors, il existe, j'imagine, sans doute des initiatives de conservation hein, des abeilles qui sont peut-être efficaces. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, Pierre ?
Alors, écoutez, il y a des gestes simples. À mon avis, il y a des gestes simples. Déjà, autant que possible, à titre perso, même avec, dans un petit coin de jardin, mais laisser des zones à la disposition des abeilles. Pas de tondeuse, c'est pas la peine de faire un green sur tout l'ensemble de nos terrains. Planter des haies différemment, on a eu pendant très longtemps ces haies qui séparaient les maisons, etc., avec des plantes qui n'étaient absolument pas, adaptées. Ça, il y a moyen de faire autrement. Et puis sinon, même en plantant tout simplement hein, des plantes mellifères dans un coin, il y a plein de choses. Il y a aussi des petits arbres. Enfin, je pense aux noisetiers, c'est la période en ce moment. Là, les noisetiers ont sorti leurs chatons. Vous voyez ces petits chatons jaunes là. En ce moment, c'est les abeilles qui, avec une température assez douce, commencent à sortir et vont chercher ce pollen. Ce pollen, il est indispensable parce que c'est lui qui va déclencher la ponte de la reine. Donc, le fait d'avoir un noisetier chez soi, rien que ça, vous plantez un noisetier, il y aura des abeilles dessus à tout le coup. En plus, ce noisetier, quand même, ça peut faire des tuteurs, des arcs et des flèches pour les enfants, enfin, et surtout des noisettes, que ce soit pour l'humain, que ce soit pour l'écureuil. Bref, c'est que du bonheur. Noisetier, par exemple, le lierre aussi. On a toujours tendance à penser que le lierre, il faut le supprimer, ça fait lait, etc., etc. Il faut savoir quand même que le lierre permet, juste avant l'hiver, avant fin novembre, etc., de proposer encore, c'est le dernier nectar que les abeilles peuvent butiner, c'est sur le lierre. Alors, noisetier, premier pollen, et le lierre, dernier nectar. Et puis aussi, possibilité, tout simplement, de planter, même sur un balcon, hein, personne qui n'a pas forcément de terrain ou de jardin, peut planter des petites plantes nécessaires, enfin utiles aux abeilles tout en étant agréable. Il y en a une, par exemple, pour des personnes qui n'ont absolument pas la main verte. Hein, je pense souvent à celui-ci, c'est l'orpin. L'orpin, on appelle aussi le sédum. Sans être arrosé, ça résiste à 40 degrés l'été, ça résiste à moins 10 ou je ne sais pas combien l'hiver. Même quand il n'y a pas d'eau pendant plusieurs semaines, ça ne bouge pas. C'est quelque chose qui est très mellifère. Donc, ne serait-ce que de planter dans une petite jardinière ou dans un petit coin du sédum, eh ben voilà, certaines villes d'ailleurs, je pense aux Pays-Bas, ont installé ce sédum là sur les abribus. Ils permettent à la fois de donner de l'espace à butiner, de protéger les passagers qui sont en dessous du soleil, et puis tout ça n'est que bonheur pour les abeilles.
Sédum, lierre, noisetier, c'est les principaux.
Voilà. Et puis sinon, il y a les arbres. Faut jamais, pour ceux qui en ont la possibilité, les arbres. Le couvert floral d'un arbre, vous imaginez un bel arbre bien, bien rond, vous le mettez à plat, ça représente des centaines de mètres carrés. Quoi. Alors qu'au sol, ça ne prend pas beaucoup de place. Alors il faut patienter, il faut avoir le temps de le voir pousser. Mais bon, c'est du long terme tout ça. Hein.
Merci beaucoup Pierre Javaudin. Je rappelle que vous êtes un véritable passionné, et ça s'est entendu encore dans cet entretien, un passionné donc par les abeilles, et que vous avez écrit donc de nombreux ouvrages sur le sujet, dont Une ruche dans mon jardin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Pierre Javaudin.
Mais je vous en prie, bonne journée à vous.
Pour aller plus loin, Pierre Javaudin vous conseille le livre « Les abeilles sauvages chez soi » d'Henri Giorgi, « Planter des arbres pour les abeilles, l'apiforesterie de demain » de Yves Daricot, et puis son livre « Abeilles en danger ». Je vous rappelle que toutes nos émissions sont diffusées sur 15 de vos radios locales et associatives en Bretagne, sur Radio Boa, leur émanation régionale, et disponible en podcast sur radioboa.bzh et sur le site de la Corlab, corlab.org. À très vite pour un nouvel épisode de Biodiversité en air. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité en air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.